Vous écoutez
RMC. Face à face, Neila Latrousse.
Il est 8h37 sur BFM TV RMC. Nous sommes donc à un an jour pour jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour à vous.
Maire de Paris, vous avez mis le polo Paris 2024.
Eh oui, les couleurs sont là.
Les couleurs officielles des Jeux dans un an. Donc Paris, capitale de la France et du sport. On parlera aussi, puisqu'on parlera de sport, du cas de Kylian Mbappé, la star du PSG, en conflit ouvert avec son club. Avant cela, la fronde qui s'étend dans la police après Marseille et Nice, des centaines de policiers en arrêt après la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues soupçonné d'avoir passé à tabac gratuitement un jeune de 22 ans. Est-ce qu'à votre connaissance, Paris est touché aussi par ce mouvement ?
D'abord, peut-être sur le fond, nous sommes dans un état de droit. La justice est indépendante, c'est une garantie absolue du fonctionnement de la démocratie.
On va y revenir sur la justice.
Et je pense qu'il faut, oui, mais il faut rappeler les principes. Et par ailleurs, on ne va pas engager le pays dans des batailles rangées pro-police contre police. On a besoin de la police, d'une police républicaine pour garantir la sécurité. Et la sécurité n'est pas l'opposé de la liberté. Sur Paris, je vois comme vous, je n'ai pas encore fait le point avec le préfet de police. Je vais faire le point avec lui sur le mouvement qui s'étendrait. Donc, je n'ai pas d'autres informations. C'est d'ailleurs à l'autorité du ministère de l'Intérieur de donner ce type d'informations.
Qui ne vous a pas communiqué pour l'instant.
Pour l'instant, non. Mais vraiment, j'insiste sur le point.
Vous dites une police républicaine, justement.
Notre pays a besoin d'apaisement.
Est-ce que c'est de l'apaisement de cela ? Quand le patron de la police nationale, Frédéric Vaud, dit hier à nos collègues du Parisien aujourd'hui en France, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail.
Je crois que les choses ont été dites. Personne n'est au-dessus des lois. Et bien sûr que la garantie de l'état de droit, c'est l'indépendance de la justice. C'est au magistrat.
Il l'a remise en cause, la justice, en disant cela ?
Écoutez, je ne vais pas remettre un euro dans le jukebox. D'ailleurs, d'accord, la situation est très grave. Je pense qu'on a besoin d'une police républicaine, de rassurer cette police républicaine sur le rôle qui est le sien, de lui donner les moyens et en même temps de faire en sorte que ces moyens soient exercé, parce que c'est une force publique au service de la nation, et bien que cette force publique soit exercée sous le contrôle aussi de l'autorité judiciaire, comme c'est le cas pour chacun des citoyens de notre pays. Donc je crois qu'il faut revenir au principe et puis faire ce travail que nous devons faire tous ensemble dans le pays pour qu'effectivement la police trouve sa place comme police républicaine et les moyens d'agir pour pouvoir sécuriser le pays, sécuriser nos concitoyens et qu'on sorte de cette bataille rangée des pro-police et des anti-police ou des pro-justice et des anti-
j'entends ce que vous dites, ne pas alimenter la fronde, ne pas
arrêter.
Alimenter la colère ni d'un côté ni de l'autre. Pour autant, quand Emmanuel Macron hier dit d'un côté comprendre l'émotion et de l'autre, des mots que vous venez de répéter, que nul n'est au-dessus de la loi, est-ce qu'il reste au milieu du gué ? Il y a une remise en question de la justice par le patron de la police nationale. Dire d'un côté je comprends l'émotion et de l'autre nul n'est au-dessus de la loi, c'est quoi ? C'est refuser de prendre parti ? Il est dans son rôle ?
Je pense que maintenant il faut passer aux actes. Et passer aux actes, c'est ouvrir ce grand chantier de la police républicaine, du rapport de la police à la population. Les policiers font un travail extrêmement dur, extrêmement dangereux.
Vous dites qu'il faut ouvrir le lien. Donc pour vous, il y a une question qui se pose aujourd'hui sur le lien des Français à la police.
Il y a une question qui est posée quand on voit la façon dont les réactions se déploient et quand on voit l'état d'émotion dans le pays. Ce qui s'est passé avec la mort de Naël est quelque chose d'inacceptable dans un pays comme le nôtre. Mais il faut, au-delà des condamnations, au-delà des polémiques, au-delà des propos, moi j'en appelle aussi la classe politique dans son ensemble, à revenir elle-même à la raison. Il faut ouvrir un débat, non pas pour faire une bataille rangée, mais pour trouver les moyens. Il faut passer aux actes. Les policiers ont besoin de moyens, ont besoin d'effectifs.
On leur en donne pas assez.
Je pense qu'il n'y en a pas assez. En tous les cas, il y a eu de nombreuses années avec des baisses significatives de moyens. Il faut aussi que la formation des policiers soit un sujet posé, traité, travaillé. Vous savez, je ne vais pas faire le parallèle, mais à Paris, j'ai créé une police municipale, ce qui n'était pas arrivé. parce qu'il y avait un tabou sur le sujet. Cette police municipale, elle n'est pas armée d'armes létales. Elle est là pour veiller à la tranquillité publique dans nos quartiers. J'ai souhaité que cette police soit paritaire, autant de recrutement de femmes que d'hommes. J'ai souhaité aussi qu'il y ait une formation. Une formation, justement...
Vous dites que ça se passe mieux avec la police municipale qu'avec la police nationale?
Je ne fais pas cette comparaison parce que ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux ni les mêmes responsabilités, et je mesure ce qu'est aujourd'hui la responsabilité aussi de la police nationale. Je dis simplement qu'il faut vraiment, au-delà des paroles, au-delà des polémiques, au-delà de l'instrumentalisation qui peut être faite ici et là et partout, qu'il faut poser ce chantier de la police dans l'état de droit, c'est-à-dire évidemment sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
On l'a vu énormément déployé dans la capitale, cette police, à l'occasion des débordements qui ont eu lieu en marge des manifestations sur les retraites, aussi plus récemment au moment des émeutes début juillet. Est-ce que vous avez pu chiffrer le bilan de l'ensemble des dégradations sur l'année? Et est-ce que vous avez avancé avec l'État sur les modalités qui reconstruit, qui paye?
Plusieurs millions d'euros, donc on chiffre encore.
Depuis janvier.
Depuis janvier, vous savez, on avait d'ailleurs au moment des Gilets jaunes aussi fait cette démarche. D'ailleurs, le maire de Toulouse aussi, l'État n'avait pas voulu rembourser la part qui lui incombait, parce que c'était quand même pas des manifestations qui étaient tournées contre la mairie de Paris, c'était vraiment des manifestations nationales. Et finalement, c'est le tribunal administratif qui a condamné l'État à verser 1,4 million pour les Gilets jaunes à Paris notamment. Donc on va, et j'espère sans passer par le tribunal, obtenir, je l'espère, de l'État le remboursement des sommes, qui sont les sommes liées à toutes les réquisitions qui sont faites. Vous savez, avant une manifestation, on demande à la ville de retirer toute une partie du mobilier urbain, et puis il y a tout, évidemment, la remise en état.
La sécurité
après.
D'ailleurs, Anne Hidalgo, c'est l'un des enjeux des Jeux Olympiques, alors pas le seul,
non.
Des Jeux Olympiques et Paralympiques. Combien de personnes sur les quais pour la cérémonie d'ouverture?
Plusieurs centaines de milliers de personnes.
Mais centaines, on est entre 600 000 et 350 000 selon les...
très nombreux et je pense que vous savez, ce débat autour du chiffre est un débat peu intéressant. Ce qu'il faut, c'est que l'on puisse
mettre... Pas pour ceux qui veulent assister.
Alors, il faut que l'on puisse mettre le plus grand nombre de personnes sur les quais, notamment, hein, parce que la grande nouveauté, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Ça n'est jamais
ceux
arrivé.
Ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément Paris, voilà. Il y a des quais hauts et des quais bas, voilà. Au plus près de la Seine.
Voilà. Et donc là, sur les ponts, sur les quais hauts, on va pouvoir assister à un spectacle extraordinaire. Donc il faut qu'il y ait un confort et une sécurité pour toutes les personnes qui pourront accéder à la zone. Donc plusieurs centaines de milliers de personnes. Vous savez, par exemple, lorsque l'on a fait Nuit Blanche le 5 juin dernier, on avait 3 millions de personnes qui étaient sur le secteur des quais de Seine, et ça s'est très bien passé sans aucun incident. Je n'ai pas encore
on
le chiffre.
On y arrivera sur le défi justement de la sécurité.
Bien sûr, je n'ai pas encore le chiffre.
Les compagnies privées peinent à recruter.
Alors, je finis ma phrase.
Un certain nombre
on n'a pas encore le chiffre sur la fréquentation pour le 14 juillet, mais le 14 juillet, c'était plusieurs millions de personnes et ça s'est passé sans aucun incident. Il y a un travail très sérieux qui est fait, auquel je participe aux côtés de Gérald Darmanin et du préfet de police, et sous leur autorité. Ils ont aussi mis en mouvement tous les recrutements nécessaires, notamment vis-à-vis de la sécurité privée.
On sera prêt, de ce point de vue-là.
Oui, on sera prêt. Et franchement, vous savez, bien sûr que les Jeux, pour que la fête soit belle, pour qu'elle ne soit pas gâchée, il faut se prémunir contre ceux qui voudraient venir gâcher la fête. Et il y en aura, évidemment. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment confiance dans la nature du travail qui est engagé. Et au-delà de cette question de sécurité, les Jeux, c'est quand même un moment aussi très fédérateur, vous savez, c'est un moment très enthousiasmant. Et pour une ville comme la mienne qui va accueillir les Jeux, bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est des années de travail, mais ça va être aussi un moment extraordinaire. Et pour moi, en tant que maire de Paris, c'est une accélération. Oui, d'abord, des Jeux écologiques. Et grâce aux Jeux, j'aurais pu faire en 5 ans ce que normalement j'aurais pu mettre 15, 20 ans
par
à
exemple.
Faire. Par exemple, nettoyer la Seine pour qu'elle soit baignable. Et en 2025, il y aura 3 bassins. On nagera dans la Seine. Ce qui est quand même pas rien. C'est pas comme ça.
Une promesse de Jacques Chirac, maire de Paris.
Oui,
il y a déjà
et vous savez, c'est pas un gadget quand on regarde l'adaptation des villes au changement climatique. Ça fait très longtemps que je m'y suis engagée. Et parfois, pas toujours très accompagnés. Hein. Les Parisiens, oui, mais enfin bon, on nous a souvent raillé sur le fait que on faisait baisser la pollution et donc réduire la place de la voiture et que l'on était en train de nettoyer la Seine pour pouvoir nager. Tout cela fait partie d'un projet pensé en lien avec le changement climatique et les Jeux auront accéléré cela.
Il faudra d'ailleurs renoncer à la voiture pendant les Jeux, parce qu'il y a tout un tas d'aménagements à Paris, Anne Hidalgo, des zones de sécurité pour au plus près des lieux de compétition, des fan zones aussi qui vont être déployées dans la capitale. Est-ce que ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà se dire, bon, l'année prochaine, il y a deux mois dans l'année où il faudra utiliser ses jambes?
D'abord, si on peut utiliser ses jambes 365 jours par an, c'est mieux pour ceux qui peuvent le faire. Si on peut utiliser les transports en commun, c'est beaucoup mieux parce que c'est moins polluant.
Ils sont saturés, on peut faire les transports en commun,
ils sont en train aussi, et je l'espère, de retrouver leur niveau qui doit être le niveau d'un service public. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une affaire de la région. Par ailleurs, faire du vélo aussi. Ensuite, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre la voiture. Je pense aux personnes à mobilité réduite, les urgences, des personnes âgées, des personnes qu'on doit transporter, les commerçants aussi, évidemment.
Eux pourront circuler en voiture.
Alors, eux, évidemment que l'activité économique et l'activité tout court ne va pas s'arrêter, mais pour tous les autres, ça sera plus raisonnable. Pendant les Jeux, comme avant et après, parce qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui, évidemment, vont rester. Vous savez, quand je dis que les Jeux auront accéléré la transition écologique de Paris, c'est aussi en termes de mobilité. Et je pense qu'on peut être fier aujourd'hui. Notre ville, elle est regardée comme une ville historique, patrimoniale, qui est capable aussi de s'adapter. Vous savez ce que me disent beaucoup de mes collègues maires étrangers? Si tu as pu le faire à Paris, on peut le faire ailleurs.
Est-ce que ça rapporte de l'argent d'organiser des Jeux Olympiques à Hidalgo?
Non, ça ne rapporte pas d'argent.
Et ça d'ailleurs, rapporte rien à Paris.
Alors,
parce que c'est la marque, on aurait tendance à se dire c'est la marque Paris 2024.
Non, la marque Paris 2024 et le fonctionnement des Jeux, le financement des Jeux, notamment la partie que préside Tony Estanguet, elle est auto-financée par le sponsoring, par la billetterie, par, je dirais, vraiment des financements privés. La partie publique, ce sont des investissements. La ville de Paris, sur 8 ans environ, aura investi plus de 300 millions d'euros en lien avec les Jeux, mais sur des investissements pérennes. Par exemple, une grande salle de sport à la Porte de la Chapelle, toute la rénovation de la Porte de la Chapelle, un quartier très important
pour moi.
Vous
dites que ça restera pour les Parisiens.
Bien sûr, c'est de l'héritage. Et ça, c'est très, très important de le dire. Mais c'est vrai, vous avez raison, que quand même, c'est une question qu'on a posée d'ailleurs avec Valérie Pécresse, que la taxe de séjour, qui est une recette qui
que
aujourd'hui
sur les hôtels et aussi sur les logements,
oui, mais qui ne représente
qui sont,
rien, c'est vraiment ridicule comme montant. Par exemple, vous prenez un hôtel 5 étoiles, même une nuit, ça existe, hein, des nuits à 28 000 euros à Paris.
28 000 euros la nuit, ça rapporte combien à la
4
mairie?
Euros à la
4
ville,
euros,
ce qui est ridicule. Vous avez des pays et des villes, par exemple, à Berlin, c'est 5% du prix de la chambre d'hôtel. À Amsterdam, c'est 7%. À New York, vous avez jusqu'à 15%. Nous demandons quand même que l'investissement que nous faisons, le fait que, et tant mieux, le secteur touristique, le secteur des hôtels, restaurants, vont très très bien s'en sortir, hein, pendant cette période des Jeux, parce qu'il va y avoir de la fréquentation, et bien qu'il y ait un retour légitime sur les collectivités, la ville, la région, qui ont investi massivement. Ça ne doit pas être porté essentiellement et intégralement par les Parisiens. Mais il y a peut-être un point, si vous permettez, sur lequel nous ne sommes pas prêts, et je voudrais insister là-dessus.
Lequel?
C'est quand même la place des personnes sans domicile fixe. Moi, je ne peux pas me satisfaire de la petite musique qui consiste à dire, pour les Jeux
aujourd'hui,
de Paris,
de les relocaliser, de les transporter dans d'autres villes qui peuvent les accueillir.
Absolument, et j'ai dit au président de la République la semaine dernière, puisqu'il avait réuni un comité olympique autour de lui, je lui ai dit, sur ce sujet-là, je propose que dans l'année qui vient, nous puissions travailler ensemble pour comme nous le faisons en matière écologique, créer aussi un héritage de solidarité, que nous mettions en place des systèmes beaucoup plus pérennes sur l'hébergement d'urgence des personnes à la rue, parce qu'il faut trouver des solutions, on ne va pas les trouver dans l'urgence, il faut vraiment que notre pays prenne ce sujet à bras le corps. J'y suis prête et j'espère que le gouvernement suivra évidemment.
Appel lancé à Emmanuel Macron, puisque vous évoquez le président, il y a 2 ans, il s'était immiscé dans les négociations contre Kylian Mbappé et son club, le PSG, en disant à la star du PSG, je veux que tu restes, tu es tellement important pour le pays. Il se trouve qu'il y a une offre actuellement des Saoudiens qui sont prêts à faire jouer Kylian Mbappé dans leur club, Al Hilal, pour 300 millions d'euros. Est-ce qu'il faut, coûte que coûte, garder Kylian Mbappé à Paris ?
Ça, c'est une question qui est posée au PSG. Enfin, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout à quoi joue le PSG. Ils ont le meilleur joueur du monde. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde.
Ils lui demandent de s'engager au-delà de l'année supplémentaire.
Ou alors ils sont prêts à ne pas le faire jouer. J'avoue que je comprends rien. Mais évidemment que Kylian est un joueur extraordinaire.
Il faut le garder à Paris.
Ah ben moi j'aimerais le garder à Paris. Je crois que c'était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible à Paris. Donc la question c'est plutôt à quoi jouer le PSG.
Question posée au PSG, on la relaiera. Merci Anne Hidalgo, il est bientôt 8h53 sur RMC et BFM TV, maire de Paris. Merci d'être venu à ce micro ce matin. Bonne journée à tous.
Merci.